chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Bonjour, chers auditeurs. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver dans nos petits studios de la rue Mérigot, les studios du Rocas de Radio Grand Ciel, avec une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, un peu particulière à nouveau, puisque je reçois aujourd'hui Régis Allard, l'organiste de Houdan, qui va faire ce dimanche, le 8 octobre, un concert dans l'église de Houdan, Saint-Jacques-le-Majeur, et un récital d'orgue que vous appelez Magnificat 1739.
Magnificat 1739, en fait, c'est le titre que j'ai donné au disque que j'ai enregistré tout à fait récemment sur cet orgue. Et ce concert est un petit peu le concert de lancement de ce nouvel enregistrement.
Et 1739 ?
Alors, 1739, c'est à la fois l'année d'achèvement de l'orgue de Houdan par un très grand facteur d'orgue de la famille Cliquot, Louis-Alexandre Cliquot. Et c'est également l'année de la parution d'un livre d'orgue composé par Jean-François d'Andrieux, qui était organiste de l'orgue de la chapelle royale de Versailles. Et son livre d'orgue a été édité à titre posthume, donc cette année-là, 1739, un an après sa mort. Et pourquoi Magnificat ? Parce que la plupart des pièces que j'ai enregistrées sur ce nouveau disque sont des pièces qui étaient destinées aux versets dévolus à l'orgue pour le chant du Magnificat. Voilà la raison de Magnificat 1739.
J'ai beaucoup de tendresse pour Jean-François d'Andrieux. J'ai retrouvé dans ses œuvres un air qu'on connaît tous. C'était quelque chose qu'on chantait à Pâques.
Exactement.
Et c'est donc extrait de la messe et des vêpres de Pâques composée par Jean-François d'Andrieux. C'est amusant de retrouver comme ça des morceaux qui sont mais universellement connus.
Ah, il y a dans la musique baroque française comme ça des airs profanes qui sont devenus des pièces d'orgue destinées pour le culte.
Le programme est très important, ce programme de ce concert. Oui, je le redis, c'est à 16h dans l'église de Houdan et dimanche prochain, 8 octobre. Régis, parlez-nous de ce programme. J'ai relevé des titres qui m'interpellent. Récit tendre pour le Nazar.
Alors, tout ce programme que j'ai composé pour ce concert de dimanche prochain, ça vient en partie de ce que j'ai enregistré dans ce nouveau disque et d'un disque que j'ai fait précédemment sur un très bel orgue aussi classique français à la ville de Bolbec. Et je vais commencer d'ailleurs ce programme de dimanche par ce compositeur, donc Gaspard Corrette, qui était un compositeur rouennais et qui a écrit probablement, je crois que c'est la dernière messe pour orgue écrite sous Louis XIV.
Était parfaitement contemporain, donc.
Absolument, la messe date de 1703. Et je vais donc jouer le Gloria. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces œuvres de musique française étaient destinées pour le culte et étaient jouées à l'orgue en alternance avec le plein chant. Alors, très différent de ce que nous faisons, nous, organistes contemporains, pour les offices, où nous accompagnions l'assemblée, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. L'orgue jouait seul et jouait en alternance avec le plein chant, qui généralement n'était pas accompagné par l'orgue. On peut peut-être d'ailleurs entendre un exemple de cette alternance par un extrait donc de ce disque que j'ai enregistré précédemment.
Et pourquoi messe du huitième ton ?
Alors, parce que les tonalités étaient désignées comme ça, à cette époque-là, on jouait dans relativement peu de tonalités, du fait de, et j'en ai parlé dans la précédente émission qu'on a faite ensemble, du fait des systèmes d'accords des instruments. Donc, on jouait dans un nombre de tonalités relativement restreintes. Le huitième ton, en fait, c'est l'équivalent de notre sol majeur.
Voilà. Alors, qu'allons-nous entendre, Régis ?
Alors, nous allons entendre une basse de trompette. Pourquoi basse de trompette ? Parce qu'il y a un accompagnement à la main droite et vous allez entendre le jeu dit de trompette à la main gauche. Ensuite, on va entendre le verset au plein chant qui va être suivi par ce qu'on appelle un récit de tierce en taille. Le jeu de tierce, c'est un ensemble de 5 jeux au timbre très particulier, très typique de l'or classique français. Et la taille, c'est évidemment, c'est joué au ténor. La taille était le chant, l'appellation de l'époque pour la voix de ténor.
Thank you.
Je vous disais, Régis, que ça devait être extrêmement prenant. On ne peut pas dire que vous soyez impressionné quand vous jouez sur vos orgues, parce que vous les connaissez bien, parce que vous possédez cet art de façon extraordinaire. Vous êtes un très grand organiste, donc vous ne devez pas appréhender de la même façon les choses quand vous êtes sur un nouvel orgue ou sur un ancien que vous connaissez bien. Mais est-ce qu'il y a toujours une émotion palpable pour vous quand vous jouez? Vous me disiez que, par exemple, le soir, dans une église, il y avait une émotion toute particulière.
Alors, il est certain qu'on peut avoir des moments tout à fait uniques au clavier d'un orgue. Si vous êtes, par exemple, effectivement le soir, l'église est dans la pénombre, vous êtes seul dans l'église qui peut être fermée, vous êtes au clavier d'un très bel instrument, vous avez une très belle acoustique, il se passe effectivement des moments de forte intensité qu'on ne connaît pas dans un orgue, par exemple, qui est situé dans une salle de concert ou... Vous avez beaucoup d'éléments qui participent dans une église. Il y a l'architecture, il y a l'acoustique, il y a le... Si vous avez un instrument ancien avec des beaux matériaux, c'est effectivement une expérience tout à fait exceptionnelle. Oui.
Et vous pensez aux gens qui ont joué dessus, qui vous ont précédé?
Oui, oui. Par exemple, à Houdan, je pense que Jean-François d'Andrieux, qui était organiste de la chapelle royale de Versailles, orgue entretenu par Louis-Alexandre Clicquot, qui a construit donc l'orgue de Houdan, je suis presque convaincu que Clicquot a dû le convaincre de venir voir l'orgue neuf de Houdan, et je pense que d'Andrieux...
Pour l'essayer,
a dû...
pour l'essayer.
Voilà, exactement, ça n'était pas si éloigné que cela, d'autant plus qu'à cette époque, l'orgue de la chapelle était en restauration. Donc, c'est sûr qu'on imagine, surtout quand on a un clavier ancien sous les doigts, on imagine tous les organistes, et parfois des prestigieux, qui ont joué donc avant vous sur ces claviers.
J'ai vu que Marie-Claire Alain était venue en 1972 avec Madame Georges Pompidou pour la rénovation de cet orgue de Houdan. J'avais eu la chance de l'entendre dans l'église de Mégève. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Peut-être est-elle d'ailleurs...
Alors, Marie-Claire Alain est décédée il y a quelques années. Elle fait partie de cette génération d'organistes qui ont, avec Michel Chapuis, avec André Isoard, qui ont participé à ce mouvement de renouveau de l'orgue ancien. Et Houdan a participé à ce mouvement-là. Quand on a restauré l'orgue de Houdan, il y avait, donc dans les années 60, il y avait deux projets concurrents. Celui qui, fort heureusement, a été retenu, qui consistait à rétablir l'orgue de Louis-Alexandre Clicquot tel qu'il avait été construit, et le projet officiel qui consistait à transformer l'orgue de Houdan en un orgue plutôt néoclassique, suivant les modes de cette époque-là. Donc,
mais les modes passent en plus.
Voilà. Et fort heureusement, ce projet-là n'a pas été retenu parce qu'on aurait abandonné certaines parties de l'orgue ancien de Clicquot au profit de vouloir jouer un répertoire plus étendu. Mais vous savez, il vaut mieux avoir un orgue ancien sur lequel vous jouez parfaitement un répertoire plus limité qu'un orgue plus important où vous allez jouer de façon peu satisfaisante un répertoire qui sera plus étendu, mais vous n'aurez pas tout à fait les bonnes sonorités.
Il faut rester dans la ligne de ce qui a été conçu et voulu.
C'est d'autant plus important dans le répertoire classique français. De tous ces compositeurs, des fois, il m'est arrivé de donner des concerts en Allemagne, par exemple, on me demande de jouer de la musique française, mais ça ne marche pas. Les sonorités des instruments, même à la même époque, sont très différentes en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc il faut vraiment jouer ces répertoires sur les instruments pour lesquels ils étaient destinés. Et c'est pour ça que l'orgue de Houdan est un instrument unique, parce qu'on a très peu d'exemplaires d'instruments de la première moitié du 18e dans un tel état de conservation et parfaitement adapté à cette musique fin 17e, début 18e siècle.
La musique française, c'est très vaste, bien sûr. Vous abordez plusieurs compositeurs, en particulier pendant ce concert. On a parlé de Jean-François d'Andrieux, Gaspard Corrette, dont nous avons entendu des œuvres, Nicolas de Grigny.
Alors Nicolas de Grigny, c'est certainement, on atteint peut-être le sommet là, de l'écriture d'orgue classique française. C'est un compositeur qui est mort assez jeune. Il a écrit une messe et 5 hymnes pour orgue, et je vais donc jouer l'un de ces hymnes, l'hymne de la Nativité A Solis Ortus Cardine. Et c'est une écriture tout à fait exceptionnelle. Il y a notamment une fugue à 5 voix qui n'a rien à envier aux fugues de Jean-Sébastien Bach. Et on a également, à la fin de cet hymne, un point d'orgue sur les grands jeux qui est tout à fait impressionnant. C'est un compositeur tout à fait exceptionnel de la fin 17e, début 18e.
Il est mort très jeune, en effet. Oui, 1672-1703, c'est...
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces compositeurs, par rapport à leur métier, ont relativement peu écrit. Pourquoi ? Parce que ils exerçaient leur art surtout par l'improvisation. Ils improvisaient énormément. Et quand ils écrivaient, prenez l'exemple de François Couperin, qui a été organiste à Saint-Gervais pendant presque 40 années. Il nous a laissé finalement que 2 messes pour orgue, messes pour les paroisses et messes à l'usage des couvents. Le reste du temps à l'orgue, il improvisait, comme tous ses contemporains, comme en Allemagne aussi. On a des compositeurs en Allemagne, précurseurs de Jean-Sébastien Bach, qui ont été organistes pendant des dizaines d'années sur des instruments. Il nous reste quelques préludes et fugues, quelques chorales. Alors, il peut y avoir des œuvres perdues, bien sûr. Mais en ce qui concerne la musique française, en fait, ils écrivaient quand ils voulaient quand même porter leur art peut-être à un niveau légèrement supérieur par rapport au côté immédiat de l'improvisation. Mais aussi peut-être mettre à la disposition de leurs contemporains un répertoire de pièces pour l'usage
pour la postérité.
Pour la postérité ou l'usage immédiat pour l'office aussi. Ou alors il y avait des considérations peut-être plus bassement matérielles, c'était peut-être une source de la publication, donnait source de quelques revenus additionnels.
Bien sûr, enfin, ils sont tous contemporains, y compris Nicolas Clérambeau.
Voilà, absolument. Alors Clérambeau... En fait, il a eu le même maître de musique que Jean-François d'Andrieux. Et on a des styles de musique extrêmement proches. Il a succédé à l'un de ses maîtres, Guillaume Gabriel Niver, à l'orgue de Saint-Sulpice. Et il était organiste de la Maison Royale de Saint-Cyr. Donc il était à la fois claveciniste, il a écrit des motets pour les jeunes filles de Saint-Cyr. Et relativement peu de pièces d'orgue, puisqu'on a uniquement 2 suites pour orgue, dont je vais interpréter la suite du deuxième ton au cours de ce concert de dimanche prochain.
À Saint-Cyr, donc écouté par Madame de Maintenon.
Absolument, absolument, exactement.
Et je vois dans le programme qui concerne Nicolas Clérambeau, basse de Cromorne.
Alors, le cromorne est un jeu d'anche. Vous savez que dans l'orgue, on a 2 types de tuyaux et 2 types de jeux. On a les tuyaux à anche. C'est une anche qui va, au contact de l'air, donc qui va vibrer. Le tuyau va servir de résonateur.
Un petit peu comme la flûte ou la clarinette.
Alors, plutôt comme des jeux d'anche, comme le hautbois, la trompette, clairon. Mm-hmm. D'ailleurs, on a le nom des jeux d'anges de l'orgue, c'est trompette, clairon, cromorne, qui était un instrument assez ancien. Hein. Et puis on a également un jeu, on le voit dans le programme, par exemple dans Gaspard Corrette, je vais jouer un dialogue de voix humaine, puisqu'on faisait la liaison à cette époque-là, qui est un jeu d'anges, qui se voulait imiter la voix humaine.
Et ça l'imite vraiment ?
Pas vraiment, non.
Mais ça s'en approche un petit peu.
Ça s'en approche un petit peu, mais c'est un jeu très particulier qui se désaccorde très vite. Les jeux d'anches se désaccordent très vite suivant les variations de température de l'église.
Et comment vous faites alors pour réaccorder ?
Alors il faut être 2. Il faut quelqu'un qui soit au clavier pour tenir la note et quelqu'un qui monte à l'intérieur du buffet d'orgue et... Et vous savez d'ailleurs qu'à cette époque-là, de ces compositeurs, on n'avait pas d'alimentation électrique en vent pour l'orgue. Il fallait donc un souffleur. Et donc, on ne pouvait pas jouer d'orgue seul. Il fallait toujours être accompagné d'un ou de 2 souffleurs pour les très grands instruments.
C'est un véritable orchestre, en fait.
Oui, alors, vous savez, on a vraiment des orgues de toutes les tailles. Et je crois que je le disais lors de la précédente émission, le nombre de jeux d'un orgue, qui est le nombre de possibilités sonores, enfin, pour résumer un peu rapidement, ça n'est pas ce qui fait la beauté d'un orgue. On peut avoir des très petits instruments sur lesquels vous allez prendre un plaisir immense pendant longtemps, et puis des très grands instruments, au bout de quelques instants, vous en avez vite
vous avez fait le tour.
Voilà, exactement. Alors, ce qui n'est pas le cas de Houdan, qui est vraiment un orgue tout à fait exceptionnel.
C'est votre chouchou.
Ah, c'est un instrument qui correspond tout à fait à l'esthétique de la musique que j'aime, à l'esthétique de la facture d'orgue que j'aime aussi. Et c'est vraiment l'instrument adapté à cette musique, parce que c'est un instrument de la première moitié du XVIIIe. On a l'habitude de jouer cette musique sur des instruments plus tardifs, absolument magnifiques, comme l'orgue de la cathédrale de Poitiers ou l'orgue de Saint-Maximin dans le Var. Mmh. Mais c'est des instruments plus importants, plus tardifs, construits quasiment la veille de la Révolution. Et à cette époque-là, la musique était très différente de celle qu'on exécute sur ces instruments. C'était de la musique... on peut citer des compositeurs un peu moins connus comme Beauverlet, Charpentier. On est déjà dans l'époque post-classique, donc un répertoire tout à fait différent, mais pendant longtemps on a enregistré ces instruments avec un répertoire souvent écrit un siècle avant, donc c'était un petit peu anachronique. Même si la sonorité de ces instruments est absolument somptueuse, l'orgue de Houdan est plus adapté à cette musique que ces grands instruments plus tardif.
Vous connaissez bien les orgues allemands, vous nous l'avez dit, les orgues français aussi, j'imagine. Vous vous déplacez beaucoup en France ?
Alors, quand je donne des concerts, je choisis toujours un peu les instruments, si j'ai le plaisir qu'on m'y invite, les instruments par leur esthétique du répertoire que je joue. Si j'en ai joué dans ma jeunesse, le répertoire romantique n'est pas le mien, et donc je suis moins à l'aise.
Vous êtes spécialisé dans la musique baroque française.
Dans la musique baroque française, et d'ailleurs c'est une musique qui est très exigeante, la musique française, parce que vous pouvez très rapidement être en dehors du style. Une fugue de Bach, vous avez une latitude d'interprétation qui est un peu plus grande. Vous pouvez la jouer plus ou moins rapidement, plus ou moins articulée.
Ça explique d'ailleurs la différence entre les différents organistes qui l'ont joué. C'est très vaste, il y a une palette.
Absolument. Alors que la musique française, très rapidement, vous pouvez être en dehors du style. Si vous n'avez pas compris le caractère d'une pièce, si vous n'avez pas le bon tempo, si vous n'avez pas lu les traités, si vous ne connaissez pas le principe de l'inégalité des notes, de l'ornementation, tous les ornements, c'est très important dans cette musique. Les ornements ne se faisaient pas de la même manière au XVIIe qu'au XVIIIe. Ça demande une connaissance très approfondie de cette musique, qui peut apparaître techniquement plus simple que de la musique allemande, par exemple, mais qui en fait est d'interprétation, je trouve, assez difficile.
Et vous voulez absolument, c'est votre souhait j'imagine, rester fidèle à l'esprit dans lequel ces pièces ont été composées et vous rapprocher le plus possible du désir des compositeurs.
Absolument. C'est toujours le souhait de tout interprète, avec quand même une certaine inconnue. On est à 2-3 siècles de l'époque de composition de ces œuvres. On a entendu beaucoup de musique après, jusqu'à la musique contemporaine. Donc on a une oreille, en tant qu'interprète, on a une oreille qui a été formée aussi par d'autres musiques pour lesquelles on doit un peu faire abstraction pour essayer de revenir vraiment à la source de cette musique du XVIIe et du XVIIIe siècle.
Et avec l'écriture de leurs notes sur les partitions, ont-ils mis des petites annotations qui vous permettent de vous rapprocher de ce que vous pensez être le droit chemin ?
Alors c'est très intéressant comme question, parce que je répondrai rapidement que la réponse est plutôt non. On a peu d'indications, même aucune, comme on peut avoir sur une partition de piano. On a des indications de forte, de pianissimo, on a même des grandes liaisons. On n'a aucune indication, excepté en général une indication de caractère ou de mouvement. On va indiquer, par exemple, en début de pièce, vif ou tendre,
oh.
ou tendrement. Donc, on a quelques indications comme ça dont il faut parfaitement connaître la signification. Donc, il faut avoir lu les traités pour vraiment en tirer le caractère. Et puis, quand on... Des fois, dans la préface de ces auteurs, on a des indications. Vous voyez, par exemple, je vais jouer l'offertoire sur les grands jeux de Gaspard Corrette. Mmh. L'offertoire, c'était un moment un petit peu où les organistes avaient, je dirais, pouvaient donner libre cours à leur
fantaisie.
Voilà, un petit peu à leur fantaisie, aussi bien en durée d'ailleurs, c'est un offertoire assez long. Et par exemple, dans la préface, Gaspard Corrette indique, le dialogue se touche fort hardiment. On y fait entrer toutes sortes de mouvements, de l'acté et des langueurs.
Oh, je répète cette phrase, Régis, je trouve ça extraordinaire. Le dialogue se touche fort hardiment, on y fait entrer toutes sortes de mouvements, de la gaieté et des langueurs. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite pour dimanche prochain.
Merci beaucoup, Marie-France.
Je suis sûre que ça va être un très beau concert. Donc, je vous redonne l'heure, c'est 16h, dans l'église Saint-Jacques-le-Majeur de Houdan. Régis Allard, merci d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.
Chers auditeurs, au revoir. Roland Richard enregistre et réalisera ses émissions. À bientôt. Au revoir.
Thank you.